Merci, Pierre. Alors, je suis Gaétan Tremblay, professeur émérite de l'Université du Québec à Montréal. Et je remercie Pierre et Françoise pour cette invitation. Alors, l'introduction étant maintenant faite, je vais inviter les membres de la première table ronde à venir se joindre à nous. Alors, il s'agit de Bernard Miège, d'Alain Deric et de Xavier Levoin. Alors, avec un petit retard d'une quinzaine de minutes, nous allons débuter sans tarder. Alors, je vous présente nos participants à cette table ronde, brièvement. Ma droite, mon extrême droite, Pierre Meuglin, que vous connaissez, qui est professeur à l'Université de Paris 13 et membre senior de l'Institut universitaire de France. Il a introduit les journées tout à l'heure et vous aurez constaté qu'il travaille ou a travaillé sur les industries culturelles, les industries éducatives et maintenant beaucoup aussi sur les industries dites créatives. Il est membre fondateur de la Maison des sciences de l'homme de Paris-Nord, qu'il a créée en 2001-2002 à l'invitation du ministère de la Recherche et du ministère des Universités. Et il a dirigé cet MSH jusqu'à 2013. Il est encore passablement impliqué dans les travaux scientifiques de cette maison. Il a publié abondamment, et je vous signalerai seulement quelques titres pour vous mettre l'eau à la bouche, « L'industrialisation des biens symboliques, les industries créatives en regard des industries culturelles », qu'il a co-dirigé, qu'il a co-rédigé avec Philippe Bouquillon et Bernard Miège, ici présent. « Les industries éducatives » également, aux Presses universitaires de France en 2010. « Les outils et médias éducatifs » en 2005. Et « L'industrialisation de la formation », qu'il a mentionné brièvement tout à l'heure, qu'il a dirigé, un état de la question. Il a aussi publié à partir de sa thèse de doctorat « Le satellite éducatif » en 1994. Le deuxième participant, il s'agit d'Alain Deric, qui est professeur à l'Université de Lille, plus précisément au Centre interuniversitaire de recherche en éducation. Ici, tu crois qu'il a une formation en informatique, informaticien? Mais il a aussi développé une perspective critique d'analyse, entre autres, des MOOC à la lumière de la nouvelle économie. Il a publié beaucoup d'ouvrages qui, pour moi, semblent parfois un peu... pas éloignés, mais disons effectivement qu'ils font référence à votre formation d'informaticien, mais aussi des textes dans lesquels je me retrouve davantage, comme sa contribution à un débat sur le chercheur enseignant en professionnel face au numérique, prise entre pédagogisme et managérialisme, qu'il a publié dans Distance et médiation des savoirs en 2015, et un ensemble de... je vous dis, de textes qui sont parfois la publication de conférences prononcées dans le cadre d'associations d'informaticiens que je vous invite à consulter, qui sont disponibles en ligne sur un site où on retrouve l'ensemble de vos publications. le troisième intervenant, Bernard Miège, mon ami Bernard Miège, qui n'a pas besoin de présentation, qui est professeur émérite à l'Université de Grenoble.
Parce que je suis ton ami, tu n'as pas besoin de me présenter.
Voilà. Il est cofondateur du GRESEC, un des groupes de recherche en communication les plus dynamiques en France, qu'il a créé en 1978 avec Yves Delahaye, et dont il a été le directeur jusqu'en 2002. Il a aussi été président de la Société française des sciences de l'information et de la communication, de 88 à 92. Président, nul n'est parfait, hein, président de l'Université Stendhal de Grenoble, de 1989 à 1994, et président également de la section 71 du Conseil national des universités. Je ne ferai pas la liste de ses nombreuses publications. J'ai mentionné celles qu'il a publiées avec Philippe Bouquillon et Pierre Meuglin sur les industries éducatives. l'industrialisation des biens symboliques, mais aussi également, il a publié sur l'espace public, un ouvrage en 2010, sa trilogie sur la société conquise par la communication, un ouvrage sur la pensée communicationnelle, l'information communication comme objet de connaissance, etc. Notre commentateur, celui qui sera chargé de relancer à partir des deux présentations d'Anne Derick, de Bernard Miège et de Pierre Meuglin, c'est Xavier Levoin, qui est actuellement à terre à l'IUT de Saint-Denis, qui a fait sa thèse sous la direction de Pierre Meuglin et de Claire Auger sur l'utilisation des technologies éducatives, outils informatiques et médias numériques dans l'enseignement de la musique en conservatoire, et qui, malgré son jeune âge, a déjà publié un certain nombre de textes en collaboration, entre autres, avec Claire Auger. Je mentionnerai pour mémoire Concours de créativité dans l'enseignement, approche critique des politiques publiques d'innovation, publié dans Communication et langage, et Des industries créatives aux politiques éducatives, la créativité en contexte, dans l'ouvrage prémentionné, dirigé par Bouquillon, sur les creative economy, creative industries, des notions à traduire. Alors voilà, brièvement introduit, ces illustres collègues, à qui je vais demander de faire un coup d'envoi d'une dizaine de minutes, hein, à peu près.
Vous avez dit 3 ou 4.
Bon, Bernard, je te fais confiance, 3 ou 4. Mais il n'y a pas d'obligation. Hein. Autrement dit, vous avez 10 minutes pour faire vos premières réflexions. Si c'est moins, pas de problème. L'objectif, c'est de susciter un débat, des interactions avec vous, ici, dans la salle, dans cette salle, et d'échanger avec les panélistes autour de cet ouvrage sur industrialiser la formation. Alors, 10 minutes chacun, je n'ai pas l'intention d'intervenir trop dans la technicalité de la gestion. Je n'ai ni carton jaune, ni carton rouge. Je compte sur la discipline de chacun, sur l'autodiscipline, sachant que l'important, l'objectif, c'est le résultat d'ensemble plus que la performance individuelle de chacun des acteurs. Alors, sans plus tarder, je vais demander à Pierre d'introduire le thème de cette table ronde, qui, je vous le rappelle, porte sur le cadre théorique qui a servi aux travaux du CIF pendant de nombreuses années et qu'on trouve maintenant dans sa plus récente formulation en introduction à l'ouvrage « Industrialiser la formation ». Alors, Pierre, je te passe le micro de nouveau.
Alors, dans notre ouvrage, celles et ceux d'entre vous qui ont pu le consulter, nous n'évoquons jamais explicitement l'idée d'un cadre théorique. En réalité, comme l'a rappelé Gaëtan, la longue, peut-être trop longue introduction est consacrée à cela. Mais nous n'avons pas formellement défini un cadre théorique. Et c'est pour les besoins de cette table ronde que je vais essayer de reconstituer quelques éléments de ce qui, rétrospectivement, peut apparaître comme notre cadre théorique. J'en identifierai 6 que je vais évoquer à chaque fois extrêmement rapidement. Le premier concerne les filiations qui sont à l'origine de notre problématisation, les filiations intellectuelles, les filiations scientifiques. Je pense que 4 de ces filiations ont été déterminantes et il est peut-être utile que vous les ayez présentes à l'esprit pour lire ou pour relire le travail que nous avons fait. La première, j'y ai fait une petite allusion tout à l'heure, c'est l'approche en termes d'industrie culturelle et plus exactement ce qu'on appelle la théorie des industries culturelles, dont un des principes qui d'ailleurs a été formulé par Bernard Miège dans la postface à un ouvrage qui a été un ouvrage fondateur, Capitalisme et industrie culturelle, dont un des principes est donc le suivant. La culture est une industrie, au sens industriel du terme, au sens français du terme. C'est donc une industrie au même titre que d'autres secteurs qui sont eux aussi industrialisés, mais c'est une industrie spécifique. Et toute la question est évidemment de savoir d'où vient la spécificité des industries culturelles. la valorisation incertaine, la diversification des modèles socio-économiques, l'organisation en filières séparées et tout un ensemble d'autres facteurs qui constituent évidemment les spécificités de l'industrialisation culturelle, des industries culturelles. Nous avons essayé de retrouver cette grille de lecture dans les questions d'éducation. Deuxième filiation, celle des économistes et des historiens de l'industrialisation. Nous avons beaucoup lu, des travaux aussi hétérogènes et même incompatibles les uns avec les autres que, par exemple, Raymond Aron, sur la société industrielle, ou bien aussi des travaux d'historiens de l'industrie comme, par exemple, Crouzet, Mumford, Gideon, Gimpel et d'autres, Thomson, qui, à chaque fois, nous ont alertés sur la nécessité de développer une approche plurifactorielle. Ces travaux-là nous manifestaient la nécessité impérieuse de considérer à la fois les phénomènes sociaux, les phénomènes économiques, les phénomènes culturels, et de ne pas nous contenter en particulier d'une histoire des idées. Troisième filiation, qui d'ailleurs relève un peu de l'économie, mais pas uniquement, qui concerne aussi la gestion, et qui porte sur les analyses sur l'industrialisation des services. Nous avons en particulier passé plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, à essayer de regarder dans quelle mesure les travaux de Aiglier et Langeard sur la servuction et le déplacement du centre de gravité pouvaient remonter, en quelque sorte, comment le centre de gravité d'une filière pouvait remonter de l'aval de la consommation vers l'amont de la production. Et en particulier, tous les phénomènes liés à l'auto-formation, au développement des stratégies d'auto-formation, nous paraissaient relever de ce processus de remontée du point de servuction de l'aval vers l'amont. Lorsque l'usager est amené à en faire de plus en plus dans la production du service, lorsqu'il est amené en quelque sorte à organiser pour lui-même le service, on est dans un processus d'autonomisation, mais on est aussi dans un processus d'industrialisation, self-service. Et enfin, la quatrième filiation qui a beaucoup déterminé certains d'entre nous et qui est très présente dans l'autologie, au même titre que les trois autres, c'est la filiation technologie éducative, à employer avec un T majuscule, non pas pour définir les outils, les produits de la technologie éducative, mais cette approche ou cette discipline, d'abord formalisée par des anglo-saxons, mais qui ensuite a été reprise par des Français et d'ailleurs acculturée au contexte français, qu'on appelle la technologie éducative, avec généralement d'ailleurs un fondement plutôt behavioriste au départ, je pense aux travaux de Skinner et de Gagnier, repris ensuite par des auteurs moins behavioristes, voire plus du tout behavioristes, Papert par exemple, est développée et présente chez nous dans l'anthologie comme par exemple par des gens comme Geneviève Jacquinot, Monique Linard et d'autres. Il me semble que d'autres filiations ont aussi joué, par exemple la contribution de François Thibault au CIF ne se situe dans aucune, enfin directement dans aucune de ces quatre, même si la question des industries culturelles intéresse Françoise, mais l'analyse des politiques publiques a été un élément déterminant. Je n'en fais pas une filiation principale, mais il est incontestable que ça a joué un rôle. Et puis je pourrais citer d'autres éléments également, comme par exemple l'anthropologie, représentée par plusieurs d'entre des membres du CIF, du moins à une certaine époque, qui a également compté. Deuxième élément qui pourra peut-être éclairer cette question du cadre théorique, notre projet n'a pas été de partir d'une définition a priori de l'industrialisation et a fortiori d'ailleurs de l'industrialisation éducative. En fait, nous nous sommes plutôt efforcés de construire progressivement cette notion, en montrant d'ailleurs que l'intérêt de ce passage en revue de tout un ensemble de textes sur l'industrialisation de la formation, c'était précisément de voir comment cette notion avait été prise, reprise, retravaillée par toutes sortes d'auteurs, avec des sens d'ailleurs souvent extrêmement différents. Nous avons dans l'ouvrage procédé à une vague périodisation qui distingue d'abord l'époque des pionniers, hein, des auteurs comme Bobbitt, par exemple, très marqués par le mouvement du taylorisme, en fait. Puis des auteurs qui, assez rapidement, dans les années 30 et un peu plus tard, se mettent à craindre les développements de l'industrie, très caractéristique à cet égard la position de Harold Innis. Puis des auteurs qui cherchent à travailler au service, à se mettre au service de cette industrialisation et qui se nomment eux-mêmes explicitement des ingénieurs de l'éducation. C'est à ce moment-là, dans les années 40 et un peu après, qu'apparaît l'ingénierie de l'éducation ou de la formation que nous connaissons aujourd'hui, des observateurs et puis des néo-industrialistes. Par exemple, nous avons dans notre anthologie réservé au moins deux textes, voire trois, je pense au texte de Ritzer, au texte de Stenzaker et peut-être au texte de Tony Waters, à des néo-industrialistes, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent par exemple à ce qu'est le capitalisme académique. Alors, pourquoi vous dis-je que cette périodisation est boiteuse ? Parce qu'en fait, il ne faut pas la prendre comme l'énoncé d'une série de périodes qui se seraient, auraient succédé les unes aux autres, mais davantage comme une sédimentation. On retrouve encore, bien sûr, des ingénieurs de l'éducation aujourd'hui. Et je dirais même que, d'une certaine façon, les critiques depuis Illich et même avant, depuis Innis, n'ont jamais cessé. Regardez, allez voir ce que Christophe Charles, par exemple, ou les gens de la réserve disent sur la question de l'industrialisation de la formation. Mais enfin, disons qu'on peut retrouver dans ces cinq périodes des éléments constitutifs de la notion en train de se construire. Troisième élément, nous n'avons pas cherché à faire une histoire de la pensée de l'industrialisation de l'éducation, mais plutôt une genèse. C'est-à-dire que nous ne nous sommes pas efforcés, comme dit Bergson, d'attendre que le sucre fonde. Ça, c'est la définition de l'histoire. On part du début et on attend la fin. Mais nous nous sommes efforcés plutôt de partir de questionnements d'aujourd'hui pour essayer de retrouver avant ce qui pouvait éclairer les questionnements d'aujourd'hui. Par exemple, la question du marché de la formation, elle est bien posée par Harold Innis, qui explique comment le micro, l'introduction du micro dans un amphithéâtre est synonyme de l'introduction du marché de l'éducation. Je vous laisse lire le texte de Harold Innis, qui d'ailleurs a été commenté par Gaëtan et quelqu'un d'autre. Mais c'est très intéressant de voir comment Harold Innis, très sensible à cette question de la mise en concurrence des enseignants les uns par rapport aux autres, des établissements les uns par rapport aux autres, eh bien, d'une certaine manière, anticipe ce qui va se développer. De la même façon, les développements que nous avons produits à la fin de notre ouvrage sur les big data trouvent incontestablement leurs origines dans le behaviorisme. Car très vite, les penseurs du behaviorisme ont compris que plus ils disposaient d'informations sur les apprenants, plus ils étaient capables de définir des profils, et plus ils étaient capables de définir des profils, plus ils étaient capables d'individualiser un enseignement. Donc nous nous sommes efforcés de remonter en quelque sorte de l'arrivée vers le départ. Quatrième point, nous n'avons pas fait dans cet ouvrage une analyse de l'industrialisation de l'éducation, mais plutôt une analyse des pensées de l'industrialisation, des manières de penser l'industrialisation. Mais en même temps, nous nous sommes efforcés de ne pas faire de cette analyse des pensées industrielles sur l'éducation une histoire des idées. Vous ne trouverez pas, ou du moins espérons-nous, que vous ne trouverez pas une histoire des idées de l'industrialisation, mais plutôt davantage une histoire des conditions de possibilité de production et de réception de ces idées. Si nous étions d'une prétention exorbitante, nous dirions que nous avons essayé de faire une épistémologie, une science des épistémés à chaque période. Mais comme nous ne sommes pas Michel Foucault, nous ne sommes pas allés jusque-là. Mais c'est quand même ce que nous avons essayé de faire et de nous rapprocher modestement. Par exemple, comment est-ce qu'on a pu penser le behaviorisme en éducation ? Comment on peut penser aujourd'hui le capitalisme académique ? Ceci renvoie à des contextes qui ne sont pas seulement éducatif, bien sûr. Cinquième remarque, nous avons cherché à faire une genèse donc, de la pensée industrielle, entre guillemets, connectée, au sens où on parle d'histoire connectée. Vous avez remarqué que dans notre anthologie, nous juxtaposons des textes venant d'auteurs eux-mêmes relevant de pays extrêmement différents, essentiellement Amérique du Nord et Europe. Mais il faut savoir que, évidemment, les contextes sont très, très différents. Lorsque, par exemple, Bobbitt réclame, au nom du behaviorisme et du taylorisme, un modèle standard de l'éducation, on ne comprend rien à ce qu'il dit si on ne voit pas que l'éducation aux États-Unis dans les années 1900, c'est une éducation qui dépend des États, et absolument pas du fédéral, et peut-être même encore plus, pas seulement des États, mais même des districts, voire des établissements eux-mêmes. Autrement dit, l'industrialisation et la taylorisation, selon Bobbitt, c'est une manière de fédéraliser, de nationaliser, en quelque sorte, l'éducation. À l'inverse, on peut dire que, d'une certaine façon, le behaviorisme en France, c'est pas du tout la même chose, c'est même plutôt le contraire. Donc, cette histoire, cette genèse que nous faisons, dont nous essayons d'esquisser les grands traits, c'est une genèse qui cherche à mettre en relation de façon contrastive des contextes différents. Enfin, dernier point, et je pense que de celui-là, il sera plus question que des précédents dans ce qui va suivre, pour nous guider dans cette construction de la pensée de l'industrialisation éducative, nous nous sommes efforcés d'identifier des marqueurs. Et nous sommes arrêtés à trois de ces marqueurs, avec l'idée qu'il est indispensable qu'ils soient coprésents les uns et les autres pour qu'on puisse parler d'industrialisation. Le premier de ces trois marqueurs, c'est la technologisation, à ne pas entendre simplement comme l'introduction de dispositifs techniques, qu'on pourrait intituler technicisation, mais c'est l'ensemble des comportements, des normes qui accompagnent l'introduction d'un dispositif technique. Le deuxième marqueur, c'est la rationalisation. Alors, effectivement, j'anticipe peut-être des échanges qui vont avoir lieu, une rationalisation conçue sur un mode un peu weberien, d'optimisation des moyens par rapport aux fins, sachant d'ailleurs que cette rationalisation emprunte des voies différentes, comme par exemple la bureaucratisation, mais pas seulement. Troisième marqueur, ce que nous avons appelé, en reprenant le terme à Habermas, qui lui-même le reprend à Marcuse, ce que nous avons appelé l'idéologisation, c'est-à-dire le développement d'un esprit industriel, le développement d'une mentalité industrielle, qui fait qu'au nom du progrès, au nom de la démocratie, au nom de l'égalité, on va développer un processus industriel. Voilà ces marqueurs qui nous ont paru importants. Il en est d'autres, nous ne les ignorons pas, comme par exemple la professionnalisation, dont il va être question dans une table ronde ultérieure, la marchandisation, l'intensité capitalistique. Tous ces autres marqueurs désignent sans doute aussi des processus d'industrialisation, mais pour les fins de cette anthologie, nous nous sommes arrêtés à ces trois-là. Voilà très rapidement décrit ce qui, rétrospectivement, m'apparaît comme les grandes lignes du cadre théorique ayant présidé à l'ouvrage dont il va être question maintenant.
Merci Pierre. Alors je vais maintenant passer la parole à Alain Doric pour ses commentaires entre 3 et 10 minutes.
Oui, je vais faire court et puis je vais interagir après parce que je suis un peu un alien, hein, vous aviez compris ça. Alors pas tout à fait, hein, je ne suis pas qu'un informaticien, je ne me définis pas comme ça. Bon, dans les deux micros, vous voyez la technologie, c'est pas toujours facile. En fait, je me suis bien soigné hein, de mon problème de technologie parce que j'étais responsable de formation continue pendant de nombreuses années, etc. Et j'ai dirigé pendant longtemps aussi un laboratoire mixte où il y avait plus de sciences d'éducation que d'informatique d'ailleurs. Hein. 2/3 de sciences d'éducation dans le labo Trigone et 1/3 d'informatique. Voilà. Donc je suis extérieur à la communauté, j'ai pris connaissance, et je le remercie Pierre de me l'avoir envoyé, du livre il y a peu de temps, J'en suis à avoir fini le premier chapitre, donc je n'en suis pas à faire l'analyse du cadre théorique, vous avez bien compris. Et néanmoins, et je le remercie, et puis je pourrais me dire pourquoi je suis ici d'ailleurs. Alors, c'est un retour de bâton, hein, c'est normal. Dans mon papier commandé, hein, dans la revue Distance et médiation des savoirs, sur professionnalisation, donc je pensais d'ailleurs que je serais plutôt sur cette table ronde, mais pourquoi pas. J'ai fini par des questions, hein, des questions de recherche, et la première, c'était de questionner la communauté scientifique autour de l'industrialisation de l'information. Et de sa création, non pas pour en contester le bien fondé ou la validité, tout compte fait, mais pour se poser la question, et je n'ai pas la réponse à ça, y a-t-il de nouvelles catégories, de nouvelles sources d'informations, un nouveau regard? Alors, ce problème de la nouveauté va nous porter continuellement. On voit demain, hein, il y a aussi la journée sur le GIS auquel je participerai pas, et la question de l'innovation, la question de la nouveauté, est-ce nouveau? Alors ce qui me plaît beaucoup dans l'ouvrage et tout, c'est qu'on montre effectivement que si on ne sait pas remonter au XVIIe siècle, il y a quand même une permanence, il n'y a pas tellement de rupture contrairement au tout le discours, et cependant on voit bien que les choses sont en train de changer, et c'est la nature de ce changement qui m'intéresse, etc. Donc c'est plutôt ça qui m'intéresse, et je me place, alors là, c'est déjà un biais sans doute, je m'inscris, alors non pas que je reconnaisse comme tel, hein, et que j'adhère à tout, mais dans le cadre de la société de l'information, de la société de la connaissance, de l'économie de la cognition, de l'économie de l'attention d'ailleurs, je pense aux travaux de Yves Citon, qui m'interpelle pas mal sur les machins, parce que j'ai un regard, moi, sur l'utilité du développement technologique, hein, donc un questionnement sur les infrastructures, notamment. Moi, j'ai été longtemps un producteur d'infrastructures, plutôt que de producteur de dispositifs, d'ailleurs. C'est mes collègues et l'action sur le terrain est souvent bricolée à partir de nos infrastructures. Ah, donc, je ne sais pas si on était dans le cadre de l'industrialisation. Les infrastructures étaient industrialisées, mais les pratiques étaient bricolées. Il faut comprendre que les deux peuvent coexister. Et d'ailleurs, dans l'ouvrage, j'ai vu que cette tension ou ce renvoi ou cette dialectique entre des processus lourds d'industrialisation, etc., et le fait qu'ils rencontrent en local des réinventions du quotidien, enfin, sont des choses qui sont intéressantes, sachant que la technologie peut obérer les deux, ou au contraire, faciliter les deux. Et ça m'intéresse. Et d'ailleurs, il y a un concept, il y a un mot qui apparaît, et je l'ai vu au travers, bien sûr, des mots, puisqu'il fait partie de la définition. Il y a un concept dans les technologies de l'éducation qui est apparu progressivement, hein, qui est le concept d'ouverture, et qu'on doit questionner. Tout est open. Hein. L'open educational resource, open platform, tout est open. Et bien sûr, il y a une idéologisation forte du open. Hein. Double d'ailleurs, hein, libre marché et néolibéralisme, et puis derrière aussi le mouvement des hackers, la volonté de que les systèmes soient dans les mains des gens, hein, et intelligibles. Vous voyez tout le débat qui est en ce moment sur l'ouverture des algorithmes, c'est-à-dire leur compréhension. Hein. Je pense à celui de fin d'enseignement secondaire, et est-ce qu'on peut l'ouvrir, et bon. Donc ça, c'est des questions. Et ça sera sans doute décousu tout ce que je vais raconter. Dans les nouvelles catégories, etc., moi, il y a des choses qui m'interpellent, c'est l'importance des plateformes, hein, comme moyen de production, comme moyen d'industrialisation. Qu'est-ce qui est à l'œuvre dans la logique? Sur Internet, tout ce qui réussit devient plateforme ou disparaît. C'est à peu près ça, les lois de l'économie. Si on ne s'adresse pas qu'à l'économie, il y a tout un tas de processus à l'œuvre derrière les plateformes, dont un degré d'ouverture. Une plateforme n'existe que si elle est ouverte à des tiers qui vont, des complémentaires, on dit en anglais, qui vont pouvoir le faire. Et donc, je me suis aussi intéressé au phénomène MOOC. Hein, et je ne partage pas complètement l'avis de Pierre quand il a écrit, je crois que c'était dans Futurible, que c'était un épiphénomène. C'est un phénomène qu'il faut juger comme tel. Alors, est-ce qu'il est nouveau? Ça, c'est quelle part de nouveauté il a, hein, cette question de la nouveauté est un peu au travers de tout ce processus-là d'administration d'information. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Est-ce qu'il y a des nouveaux acteurs, des nouveaux procédés? Ou est-ce que c'est un renouvellement de l'idéologie et de la façon de nous le présenter? Il y a quand même une figure qui intervient. Une nouvelle figure très forte, c'est celle de l'entrepreneur. Et ça, c'est une catégorie assez récente qu'on nous vend. Alors, c'est vrai que tous les discours et le transfert des valeurs de l'entreprise à, comme modèle pour l'éducation, des modèles d'organisation, etc., jusqu'à la bureaucratisation, etc., il y a une nouvelle figure qui est tout à fait à rebours, d'ailleurs, de la bureaucratisation et tout, c'est la figure de l'entrepreneur, hein, sur laquelle on devra s'interroger comme une catégorie possible pour analyser nos processus, etc., sachant que les grands entrepreneurs de l'Internet deviennent les prescripteurs du monde. Dans la Silicon Valley, on ne veut pas simplement vendre des services, on veut changer le monde. Regardez le discours, et il est ancré très fortement. Et donc on a là des processus très très forts, des nouveaux acteurs. Dans la littérature, d'ailleurs, il faudrait s'intéresser un petit peu plus à tout ce qui se passe dans les fondations et les think tanks, qui deviennent de plus en plus prescripteurs. On a parlé de la politique publique tout à l'heure et du rôle de la politique publique pour prescrire cette industrialisation et cette technologisation de la formation. Mais derrière Melinda Gates et Bill Gates Foundation, Hewlett-Packard Foundation, Lumina, MacArthur Foundation et tout un tas de choses comme ça, il y a des discours très forts qui sont portés. Hein. Et regardez aussi ce que dit, par exemple, les instituts comme celui de Clayton Christensen, professeur à Harvard, spécialiste de la disruption dans l'innovation. Il a même créé un institut presque à sa dévotion, hein, et qui porte et qui viennent. Alors, est-ce qu'il renouvelle? Moi, j'en sais rien. Ça serait à analyser, justement, dans le futur. Est-ce qu'il renouvelle un petit peu le regard qu'on pourra avoir, par exemple, au travers de cet ouvrage? Est-ce qu'il y a des choses dans la nouveauté? Okay. Alors, le lien que je fais, moi, personnellement, parce que j'essaye, ça résonne beaucoup, hein, pour moi, cet ouvrage, même si je n'en ai pas pris complètement conscience, etc. Je suis conscient, d'ailleurs, que j'avais qu'une connaissance un peu extérieure et superficielle de votre séminaire, etc. Et de l'aspect qu'il ne faudrait pas le prendre comme une métaphore. Encore que. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le design aussi, le design dispositif. Or, les métaphores sont génératives, hein, sont porteurs de création, etc. Donc, derrière, on peut aussi le prendre comme une métaphore, hein, et pas seulement. Et cette métaphore, quand elle est récupérée par les designers, elle est puissante pour donner du sens au design. Hein. Donc, il faut quand même... Il y a une sorte d'autoréalisation là, qui se passe, hein, qui est importante. Et pour moi, ça résonne, on a parlé de catégories, de marqueurs, etc., de choses genre là, c'est la notion du travail. On m'en a fait le reproche à un certain moment, parce que quand j'ai commencé à produire des outils pour les plateformes d'apprentissage collaboratif, etc., il y avait peu de référents théoriques, hein, il y avait encore peu de choses. Alors il y avait la cognition distribuée, des choses comme ça qui pouvaient m'inspirer, mais en éducation il n'y avait pas encore beaucoup, beaucoup de travaux sur technologie, collaboration et éducation. Donc je suis allé chercher mes valeurs du côté du travail collaboratif assisté par ordinateur. Et j'ai bien vite compris que ce n'était pas le assisté par ordinateur qui était important, c'était la compréhension du travail, etc. Et donc on est parti comme modélisation autour de l'activité en prenant ces modèles des références de courants sociaux, d'ethnométhodologie et tout un tas de choses comme ça pour comprendre la nature de la situation et la nature de l'activité. Et un jour on m'a dit dans un colloque, mais tu fais une équation apprentissage égale travail. Ben, je la revendique, tout compte fait, ça ne marche pas trop mal. Et du coup, si on regarde le travail de l'apprenant et le travail du professionnel de l'éducation et le travail des organisateurs et des managers de l'éducation, ce qui m'intéresse, c'est la notion du contrôle. Est-ce que le contrôle, hein, l'industrialisation, et pas seulement de la formation, c'est aussi une histoire du contrôle du travail, des formes de contrôle du travail, très libre, très hiérarchisé, taylorien ou pas, post-taylorien, post-industriel, etc. Donc cette notion du contrôle et du transfert du contrôle m'intéresse beaucoup, m'interpelle beaucoup, parce qu'il y a des parallèles dans les industries de services. Et j'ai vu que Anne-Marie Dujarrier ou... comment il s'appelle l'autre Trifon, je ne sais plus. Était mentionné dans les références du livre. Et effectivement, ça, c'est de nature. Ça me parle, parce que, par ailleurs, j'ai enseigné longtemps et monté un master spécialisé dans l'e-commerce et sur les méthodes. Et je reviens, une dernière chose que je voudrais dire, on voit que dans cette tension, il y a la notion de l'autonomie de l'apprentissage qui serait incompatible ou pas avec le processus d'éducation de la formation. Il faut savoir que dans les autres disciplines que l'éducation, mais aussi dans l'éducation, On tente de réconcilier cette autonomie, ou dit autrement, le fait que l'action d'apprendre est située, contextuelle, singulière, et l'industrialisation, c'est la même chose que les processus qui sont en train de se faire. Alors, beaucoup croient en l'essor du big data, de la personnalisation. On voit beaucoup qu'il y a beaucoup de débats, même au travers des MOOC, sur la tension qu'il y a entre le massif et la personnalisation, et la personnalisation de masse, quoi. Donc, et ça, là, il y a des choses dans l'industrie des services qui sont en train de se passer et qui peuvent nous aider à enrichir peut-être. J'en sais rien, je réfléchis comme ça à haute voix. Je n'avais pas préparé parce que je ne savais pas que j'étais dans une table ronde. Donc c'est mieux d'ailleurs, tout compte fait. J'ai moins de pression. Voilà. Et puis je reviendrai après sur d'autres aspects.
Merci Alain. Vous avez déjà soulevé nombre de questions et donné raison à Pierre quand il souhaitait que cette table ronde et cette journée soient l'occasion de croisement de regards. Je pense qu'effectivement, vous nous avez déjà indiqué plusieurs pistes où nous pourrons croiser un peu plus tard ces regards. Mais plutôt que de vous interroger, parce que déjà, ça m'a soulevé, moi, quelques questions, je vais au préalable passer la parole aux deux autres intervenants, à Bernard Miège et à Xavier.
Bien. Bonjour à tous. Pour moi, c'est un plaisir réel d'être ici et de voir discuter cette œuvre conséquente, importante, qu'est l'anthologie. Mon statut vis-à-vis de l'anthologie est particulier. Je suis auteur, ou plus exactement co-auteur, et pour autant, je ne suis pas pleinement inséré dans le groupe CIF, même si j'y participe. Je suis avant tout quelqu'un qui travaille sur les industries culturelles et créatives à côté d'autres aspects. Et c'est ce qui m'a amené à l'initiative de Pierre Meuglin, voici 20 ans, à m'intéresser, à essayer de voir les connexions qu'il pouvait y avoir entre les industries culturelles créatives aujourd'hui et les industries de la formation. Et je ne me plains pas de cette invitation, car finalement, elle a donné des fruits. En tout cas, elle m'intéresse, et je dirais, elle m'intéresse de plus en plus. J'ai intitulé cette courte intervention qui m'était demandée « Trois ou quatre choses aujourd'hui essentielles à propos de l'industrialisation de la formation ». Autrement dit, ce que je vais rapidement essayer de vous présenter, c'est le contexte de l'ouvrage, le contexte dans lequel sort l'ouvrage après 5 ans de gestation, même si je ne connais pas tout, parce que je n'ai pas été directement associé à tout. Je le répète, j'étais un co-auteur. Et ces trois ou quatre choses, quatre en réalité, sont les suivantes. En fait, depuis 20 ans, il y a des ponts, c'est-à-dire des rapprochements, qui ont été opérés entre les industries culturelles et les industries de la formation. Et depuis cette période, si je regarde ce qui s'est produit, ce qui s'est passé, je dirais que les connexions, les similitudes n'ont cessé de s'étendre, de se développer. Donc il y a des points de recouvrement importants, sans pour autant que les unes et les autres se recoupent complètement. Il y a des différenciations qui demeurent, même si les points de convergence sont importants. Les points communs, en fait, ne concernent pas seulement les contenus, ce qui serait la première façon de regarder les choses, mais les points communs regardent finalement le rapport aux outils, aux dispositifs d'information et de communication, et donc également les recherches sur la production et les usages. Et ceci a déjà été souligné en s'intéressant à ces aspects communs. En réalité, c'est toute la question de l'innovation qui est posée. Et je dirais que moi, je suis plutôt schumpeterien ou plutôt freemanien. Et je plaide pour qu'on ait une approche précise de l'innovation. Une approche, l'innovation, c'est pas le changement. C'est beaucoup plus impliquant et beaucoup plus important que le changement ou même que les mutations. Et je crois que c'est ce point de vue qu'il me paraît nécessaire d'indiquer ici. En tout cas, les rapprochements, première chose que je mets en évidence, les rapprochements ne cessent de se développer et ne concernent pas seulement les contenus. Deuxième aspect, au-delà de ces constats, de ce constat de départ, ce qui est à l'origine de la similarité de pas mal de développements des unes comme des autres, c'est évidemment la question de la marchandisation croissante dans les deux cas et plus largement la question de l'industrialisation. Alors, la marchandisation, ça va bien au-delà du marché. C'est un processus social. Et la marchandisation, je dirais que dans les deux cas, c'est presque à regret qu'elle est mise en avant. Elle apparaît dissimulée, mais elle est bien réelle. L'industrialisation, en réalité, l'industrialisation des produits culturels et de formation, passe le plus souvent par le recours aux outils techniques, mais pas seulement par le recours aux outils techniques. Et c'est un point commun entre les deux. Et ce mouvement, il faut bien s'en rendre compte, est engagé un peu partout dans le monde aujourd'hui, un peu partout dans toutes les régions du monde aujourd'hui. Pas toutes, tout à fait, pas tous les pays, mais une grande partie est bien au-delà de ce qu'on imagine souvent. Et en mettant en avant la question de la marchandisation et celle de l'industrialisation, en réalité, on s'intéresse aux modalités de conception, de production et de diffusion, distribution, c'est-à-dire d'intermédiation, qui sont assez voisines entre ces deux catégories d'industrie. Et ceci est tout à fait commun aux deux, est tout à fait essentiel dans un contexte d'individualisation croissante des consommations et des pratiques. Dans un contexte d'individualisation croissante des consommations et des pratiques. Pour reprendre ce qui a déjà été dit à propos des MOOC, moi je dirais qu'on peut penser ce qu'on veut des dispositifs qui sont produits, sont disponibles pour l'instant. J'en pense pas forcément du bien, mais peu importe. C'est ce qui est le phénomène le plus important, c'est un contexte d'individualisation croissante des consommations et des pratiques. Et c'est ça qui a toute chance de prendre corps au-delà des développements simplistes qui aujourd'hui peuvent être observés. Troisième chose que je voudrais souligner, et sans doute là je suis en désaccord avec le collègue qui vient de parler avant moi, pour moi un enjeu très actuel qui permet de comprendre ce qu'est l'industrialisation de l'éducation ou de la formation, un enjeu très actuel, c'est la formation de portails spécifiques. Pourquoi je suis en désaccord avec le collègue qui a parlé avant moi ? C'est parce que lui met l'accent sur les plateformes, comme le font généralement les économistes de tout bord, de beaucoup de bords, en tout cas les plus classiques, les gestionnaires surtout. Il n'y a que les plateformes qui l'intéressent. Moi, au-delà des plateformes, ce qui m'intéresse, ce sont les portails. Pourquoi ? Parce que les portails diffèrent des plateformes de façon significative parce qu'ils assurent la relation avec l'amont, c'est-à-dire avec la conception, la production des produits. Deuxièmement, parce qu'ils permettent des échanges en termes monétaires, alors que Les plateformes, ce n'est pas leur but premier. C'est un but monétaire, en termes monétaires, détourné. Troisièmement, les plateformes sont plus à même de faire respecter le pluralisme et la diversité des expressions, car il y a une stratégie éditoriale dans les plateformes. Et pour te dire, je préfère cette stratégie éditoriale à l'algorithmisation des comportements que promeuvent les plateformes. Voilà donc troisième élément, troisième propos que je livre à votre réflexion, qui paraît très actuel aujourd'hui dans ce rapprochement entre industrie de la formation et industrie culturelle et créative, la question des portails. Quatrième aspect, c'est que notre attention ne doit pas se porter uniquement sur la phase aval du cycle, c'est-à-dire, comme on le fait trop hâtivement aujourd'hui, sur l'intermédiation. Mais elle doit se porter sur l'ensemble des déclinaisons, des modèles génériques, que sont l'édition et le flow, qui fonctionnent autant dans les industries culturelles que dans les industries éducatives. Mais les déclinaisons sont diffèrent dans le cas de ces deux catégories d'industries. Disons que ce qui compte pour la formation, c'est surtout l'accès à la pièce, c'est-à-dire à chaque produit individualisé. C'est le courtage stricto sensu et donc le portail. Trois des déclinaisons, il y en a six dans le cadre des industries culturelles, il y en a trois qui concernent les industries de la formation plus directement. Et ces trois déclinaisons des modèles génériques, ces trois déclinaisons nous amènent à nous intéresser, pas seulement à l'aval, je le répète, mais également à l'amont, nous intéresser. Et nous amène à attirer l'attention des professionnels, des spécialistes, des gens qui sont impliqués là-dedans sur cet aspect assez fondamental. Voilà donc, me semble-t-il, quatre points, quatre aspects, quatre choses que je livre à votre réflexion pour préciser le contexte dans lequel sort ce magnifique ouvrage qu'est l'anthologie, auquel j'ai eu le plaisir de collaborer à titre de co-auteur, mais dont je ne suis qu'un petit rouage à côté de ceux qui ont pris une part essentielle. J'ajoute un point, c'est que les réflexions que je vous livre sont très actuelles pour moi, puisque je viens de pratiquer une démarche que je n'ai jamais faite jusqu'à maintenant. C'est que j'ai réécrit un livre à 16 ou 17 ans de distance, et je vous assure que son contenu... Il y a bien des aspects qui tiennent la route, mais il y en a bien des aspects qui sont actualisés. Bon. Et je le dis, et c'est donc... les catégories qui nous intéressent, hein, que ce soit les industries culturelles, que ce soit les industries créatives, que ce soit les industries de la formation, que ce sont des catégories qui bougent, qui subissent des mutations. Des innovations, il faut regarder de près. Je répète, moi je regarde de près quand j'emploie le mot innovation. Et je ne suis pas sûr qu'on ne fasse pas dans les milieux d'éducation une erreur en employant beaucoup trop rapidement le terme innovation, en particulier dans le cadre de l'innovation pédagogique. Voilà ma contribution à cette table ronde. Monsieur le Président.
Merci Bernard pour ces 3 minutes bien remplies.
J'étais obligé d'allonger.
La table est mise hein, pour une bonne discussion, un bon débat sur entre les tenants des portails et les tenants des plateformes comme voie privilégiée de l'industrialisation de la culture et de la formation contemporaine. Mais avant d'y procéder, je vais passer la parole à Xavier.
Alors, j'avais prévu une intervention sous forme de questions issues d'abord de la lecture de l'ouvrage. Donc je craignais qu'elle s'éloigne un petit peu des points qui seraient abordés pendant la table ronde, mais finalement, j'ai l'impression, en tout cas, pour ma part, que certains des points que je souhaitais soumettre à la discussion recroisent certaines de vos préoccupations. Donc je comptais partir d'un élément qui me semblait clé dans la construction du cadre théorique, c'est-à-dire les 3 marqueurs de l'industrialisation que sont technologisation, rationalisation et idéologisation. Concernant le premier, étant bien entendu que technologisation n'est pas seulement utilisation d'outils techniques et numériques, par exemple, dans un contexte d'enseignement, qu'elle peut aussi concerner d'autres espaces des systèmes de formation, par exemple l'administration, la gestion de la vie scolaire, étant entendu également qu'elle ne se substitue pas à toute forme de médiation humaine, qu'en est-il de la technologisation du travail de conception des cours et plus généralement du travail que l'on pourrait, dans une certaine mesure, qualifier de créatif des enseignants et des formateurs? En d'autres termes, est-ce que l'utilisation d'outils d'aide à la conception, à la scénarisation et peut-être au design pédagogique constitue l'une des voies majeures d'industrialisation de l'éducation ou de la formation aujourd'hui? À ce sujet, on pourrait aborder ici les outils qui viendraient nos architectes, parmi lesquels des logiciels ou des plateformes, encore elles, qui préfigurent ou suggèrent des pratiques auxquelles l'enseignant est prié de souscrire et qui, par là même, peuvent avoir tendance à standardiser les pratiques d'enseignement. C'est d'ailleurs, je crois, l'une des occasions de rapprocher industrialisation de l'éducation et industrie culturelle. On sait en effet, depuis les travaux fondateurs en la matière, que la part créative du travail artistique a tendance à devenir une phase de conception d'un procès de production de biens. Voilà le premier point que je voulais soulever à propos du premier marqueur. Concernant la rationalisation maintenant, et parmi les formes très diverses que peut prendre ce phénomène, très diverses et très divergentes, il m'a semblé que l'une semblait aller dans le sens d'un renforcement de la bureaucratisation, avec un contrôle accru de la productivité du système, avec des évaluations à tous les niveaux, et par conséquent avec des tentatives de standardiser les critères d'évaluation. En témoigne récemment, dans l'actualité récente, l'importance que l'on attribue aux enquêtes PISA, et dans un autre registre, les palmarès des établissements d'enseignement supérieur. L'autre tendance, quoique non contradictoire, semble aller dans le sens d'un ajustement de l'organisation en fonction des usagers, et s'opposer à l'habitus bureaucratique qui est évoqué dans l'anthologie par Waters, par exemple. L'usager, l'apprenant, contribuant largement à la production et à la qualité de la prestation. Alors jusqu'à quel point ces deux approches s'opposent-elles? Jusqu'à quel point la rationalisation peut-elle être reportée sur l'action des usagers, aussi bien en termes de coproduction de la prestation éducative qu'en termes de contrôle de la qualité du service? Pour prendre ici aussi un exemple dans l'actualité récente des politiques éducatives, on a vu récemment l'inauguration de la dite grande école du numérique, qui fédère justement sous l'étiquette numérique, qui témoigne au passage de sa faculté à planir des divergences et à lisser des conflits entre des acteurs, des formes très variables de services de formation. Dans cette école, en tout cas, les apprenants sont fortement mobilisés dans l'évaluation des enseignements, dans la pratique du tutorat qu'assurent eux-mêmes les apprenants dès le début de leur cursus, et dans la politique de communication des établissements, les apprenants étant largement mis à contribution dans la construction d'une communauté de marque. Je pense à l'école 42 en particulier. Alors, pour en revenir à la question, inspirée de la lecture du chapitre consacré à Stensecker, la mobilisation de l'ensemble des acteurs d'une communauté éducative, étudiants inclus, en faveur de la construction ou de la défense d'une marque, est-elle ou participe-t-elle des formes de rationalisation? C'est là aussi, me semble-t-il, un second axe de rapprochement avec les industries culturelles, dans la mesure où la mise à contribution des usagers, sous le prétexte de l'empowerment, constitue l'une des caractéristiques du paradigme de la convergence qui a été soulevé dans l'ouvrage de Philippe Bouquillon, Bernard Miège et Pierre Meuglin de 2013. Et concernant enfin le plan de l'idéologisation, si les textes retenus dans l'anthologie relèvent plutôt des discours de l'industrialisation que des discours sur l'industrialisation, ces discours, et plus généralement ceux qui s'inscrivent dans le projet ou en faveur du projet d'industrialisation, font aussi, me semble-t-il, circuler des modèles d'action qui peuvent éventuellement se traduire en doctrine. Alors, faut-il considérer que l'idéologie ne prospère que lorsque les pratiques ne produisent pas les effets escomptés, comme cela semblait être le cas dans le cas de l'Efficiency Movement, qui est abordé dans la première période. Ou pour prendre à dessein un cas presque inverse, que l'idéologie précéderait l'action et préparerait le terrain. Deuxième question à propos de l'idéologisation, doit-on considérer qu'elle résulte d'une action exogène ou endogène au secteur de l'éducation? Alors dans le premier ouvrage publié sous l'égide du séminaire, sauf erreur de ma part, deux modes d'incitation étaient mentionnés à ce sujet. L'une, qui était celle du séminaire, voyait dans l'industrialisation une incitation endogène, si je ne me trompe pas, au monde de la formation. Et l'autre la situait au contraire dans la perspective d'un projet plus général d'informatisation sociale, porté notamment par des acteurs industriels. Pour ma part, j'ai le sentiment que la première approche prime toujours, mais peut-être y a-t-il débat au sein du séminaire et dans l'Assemblée. C'est la raison pour laquelle je souhaitais soulever cette question. Et demander également quelle lecture pouvait être faite de travaux menés à l'extérieur du séminaire, mais qui ont tendance peut-être à mettre plutôt l'accent sur des formes d'industrialisation qui résulteraient d'injonctions émanant de politiques internationales, d'inspiration que l'on dit parfois néolibérale. Et je pense en particulier au travail récent de Lucie Tanguy, enseigner l'esprit d'entreprendre à l'école, qui étudie très précisément la façon dont des partenariats entre des associations qui elles-mêmes associent des acteurs industriels, le système éducatif et d'autres organismes de formation, comment donc ces partenariats permettaient de prendre en charge des missions éducatives que l'État ne semblait plus en mesure d'assumer, ou en tout cas pensait ne plus être en mesure d'assumer. Voilà les quelques questions que je souhaitais soulever.
Merci Xavier. Voilà encore d'autres questions pour lancer le débat. J'ai été frappé en vous écoutant par une sorte de trame de fond sous-jacente à toutes vos interrogations qui me semble être une préoccupation pour les acteurs. Je retrouve ça dans divers mots que vous utilisez, les partenariats, les modèles d'action, les usagers, les apprenants, etc. Et je pense qu'il s'agit là d'une question qu'on pourrait soulever de manière générale sur la place des acteurs dans une problématique d'industrialisation de la formation. Alors, je ne passerai pas la parole à Pierre Meuglin pour répondre éventuellement aux questions, critiques qui ont été formulées, parce que pour respecter son souhait, dans le fond, que ce ne soit pas une sorte de défense et illustration de l'approche présentée dans l'ouvrage Industrialiser la formation, mais plutôt un ensemble de questions qui avaient pour première mission de tous nous réchauffer ce matin, de mettre la table pour que les gens dans la salle, nous tous, puissions participer à ce débat. Alors, je vais tout de suite vous renvoyer ces questions en vous demandant... comment vous interpelle-t-elle? À quoi avez-vous accroché dans l'ensemble de ce qui a été présenté? Ou avez-vous de nouvelles questions à présenter, à formuler? Toujours, bien sûr, en gardant quand même en perspective, en trame de fond, en fil conducteur, les liens qu'on peut développer par rapport à la problématique qui est présentée dans cette anthologie. Parce que ne l'oubliez pas, il y a un cadre théorique, mais c'est autour d'une anthologie où sont convoqués une vingtaine d'auteurs différents.
Merci bien de votre présentation. J'aurais une question à vous poser. Ben, on parle d'industrialiser l'éducation. Alors, pourquoi pas citoyenniser l'éducation? Parce qu'en fait, ce que nous faisons, nous, dans le quotidien en tant qu'enseignants, malgré tout et malgré tous, contre tout et contre tous, c'est de citoyenniser et l'éducation. Et à moins qu'on soit mis à la porte, un de ces quatre, ça se peut. Et malgré le mandat, en effet, des institutions, qui est un mandat d'industrialisation, je parle de citoyennisation de l'éducation, parce que pourquoi pas, on pourrait y mettre y insérer l'industrialisation, une certaine industrialisation de l'éducation, une bonne, dans le bon sens, l'industrialisation. Tandis que, disons que la citoyennisation de l'éducation dont on a tant besoin peut inclure une certaine industrialisation, tandis que l'industrialisation telle qu'elle est imposée exclut la citoyennisation de l'éducation, malheureusement. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer. Donc voilà, comme idée, je crois qu'on est un peu dans la même longueur d'onde.
Oui, Bernard.
Oui, je crois que pour... je réagis à votre proposition qui est intéressante, mais le problème, il est autre. En réalité, notre souci... c'est d'observer, d'analyser et d'avoir un point de vue analytique approfondi, une évolution de l'éducation et de la formation avec laquelle on peut être personnellement en désaccord, mais qui n'en est pas moins une évolution que l'on remarque dans ce pays et dans d'autres. Alors... j'ai souvent eu à répondre à des remarques parallèles et assez équivalentes à celle-ci lorsqu'on me disait « mais vous êtes favorable à l'industrie culturelle ou aux industries créatives ». Non, il y a des tas de choses dans la culture qui m'intéressent, qui n'ont rien à voir avec l'industrie culturelle, mais en tant que chercheur, je m'intéresse aux industries culturelles et j'essaye de voir quels sont les enjeux profonds, théoriques et pratiques, qui sont liés aux industries culturelles. Alors, vous avez certainement raison. Il y a des tas de choses qui concernent l'évolution de l'éducation aujourd'hui, dont l'éducation, la marchandisation. C'est là-dessus qu'on met l'accent.
Je pense que l'idée de parler du cadre théorique à toute cette réflexion de l'industrialisation. L'idée de cette table ronde, il me semble que dans votre intervention, vous l'avez vraiment mise en mots de façon très différente. Mais j'ai envie de revenir quand même sur quelque chose qui est commun, même si ça a été dit effectivement de façon très différente, c'est cette question des marqueurs, en fait. Hein. C'est-à-dire que finalement, ma question serait... les marqueurs peuvent être toujours inscrits dans une temporalité longue, mais à l'intérieur de des marqueurs, il y a des évolutions en termes d'action qui sont très, très importantes. Et c'est comme ça qu'on peut interroger, je reviens sur ce que tu disais, Bernard, enfin, c'est un peu une question. Est-ce que ce n'est pas comme ça qu'on peut aussi interroger finement l'innovation? C'est-à-dire en regardant la façon dont ces marqueurs, ou la façon dont ces marqueurs prennent corps dans l'espace social, dont ces marqueurs évoluent considérablement. Si plateforme, tu vois, quand tu opposes plateforme et portail, par exemple, hein, quand tu opposes plateforme et portail, en fait, quand on regarde justement finement certaines plateformes et certains portails, en fait, là, les oppositions que tu fais sont presque plus significatives dans le temps. Elles l'ont été, elles peuvent ne plus l'être en fonction de l'évolution des outils technologiques.
Je passe la parole à Alain sur cette question.
Oui, pour dire que on n'était pas en opposition en réalité. Hein. J'ai utilisé un raccourci plateforme et je ne faisais pas mention du GAFA, hein, puisque c'est un mot que je n'ai pas prononcé. Donc des grandes plateformes. Hein. Pour moi, tout est plateforme. Alors, c'est peut-être une déformation, mais Internet est une plateforme et elle n'est pas neutre. On le sait depuis longtemps. Donc c'est au sens de ces grandes infrastructures. J'aurais pu utiliser le mot infrastructure. Hein. Comment c'est structurant pour finir, parce que effectivement les lignes de partage sont difficiles puisqu'on est toujours obligé de s'appuyer sur autre chose qui a été produit et qui est plus commun, etc. Hein, quand on fait un portail, même pour un petit groupe pédagogique, on est bien obligé de s'appuyer sur l'infrastructure de l'Internet et certains outils, etc. Quand on fait un portail d'une université, on va peut-être s'appuyer sans le savoir sur la plateforme AWS d'Amazon parce que c'est un service. Hein. Mais ce service aussi, il a son jeu de valeur, etc. Donc ce qui moi me questionne beaucoup, c'est sur la prétendue neutralité des infrastructures, qu'elles ne sont pas. Hein, ça, je me suis pas mal intéressé à ça. Voilà.
Merci. Donc Thibault Hulin de l'Université de Dijon. J'avais donc Alain Déric parlé, à donner un certain nombre de concepts. Hein. Vous avez parlé de mouvements open, des fondations, des think tanks, des studies, du design. C'est Xavier Levoin qui a évoqué aussi les standards, je crois. Donc on a l'impression d'y poser comme ça d'une certaine novlangue, hein, d'une certaine qui accompagne ce phénomène d'industrialisation. Et je me demande en quelle mesure on passe un peu vite sur ces termes. Par exemple, si on prend le concept d'open, tout est ouvert, etc. Donc ça me renvoie à un débat qu'il y a sur cette notion, y compris par les acteurs, avec d'un côté l'open source initiative qui vise à promouvoir les logiciels qui sont produits aux États-Unis avec ces licences-là, et de l'autre, la fondation, pour le coup, du logiciel libre, portée par Richard Stallman, et qui, lui, a essayé d'étendre davantage ce concept. Par exemple, il a défendu l'idée que la licence GPL3, par rapport à la GPL2, devait maintenir l'aspect la licence libre, coûte que coûte. Et que, par conséquent, on ne pouvait pas passer à un modèle propriétaire à partir d'une licence libre. Et donc, derrière, il y a évidemment une vision de la société différente. Et donc, il y a des vrais débats profonds qui se posent par ces acteurs-là. Et par conséquent, dans cette genèse de l'industrialisation, dans quelle mesure est-ce qu'elle s'inscrit plus dans le cadre d'une histoire externe, en décrivant finalement l'industrie, ou dans quelle mesure est-ce qu'elle peut rendre compte des débats internes qui sont aussi portés par les acteurs sur les orientations de cette industrialisation.
Bonjour, je suis Abdelkader Zighed et je suis en charge du numérique à l'Agence universitaire de la francophonie. Et je suis un informaticien, donc je ne suis pas du tout du secteur des sciences de l'éducation, même si je connais un petit peu cet univers des sciences humaines et sociales autour de ces questions-là. Ma réflexion, elle est d'ordre vraiment purement pragmatique. J'ai beaucoup entendu parler, c'est vraiment très intéressant, de l'industrialisation, de ce que c'est que l'industrialisation, mais je ne pense pas avoir compris pourquoi cette industrialisation se pose, parce que quand on se pose la question du pourquoi, on va définir le comment. Et je vais m'expliquer. On assiste là maintenant on nous dit qu'il y a beaucoup de plus en plus d'étudiants, que la qualité de l'enseignement baisse face à ce nombre et on ne sait pas quoi faire. Donc effectivement, la réponse est une industrialisation parce qu'on ne peut pas dupliquer les choses de manière... on ne peut pas reproduire le système actuel qui est basé sur une architecture, un mode de fonctionnement. On ne peut pas le reproduire. Il ne peut pas passer à l'échelle, comme on dit. Donc la question qui se pose, c'est comment cette industrialisation, elle va réellement s'opérer en tant qu'outil pour conserver la qualité. Parce que industrialisation pour industrialisation, ça pas, de mon point de vue, ça n'a pas beaucoup de sens. Comment cette industrialisation, dans un contexte, d'une demande sociale importante, mondiale, va-t-elle répondre ou pas? C'est là la question qu'on se pose, parce que c'est des choix importants qui peuvent engager, des structures de manière significative sur le futur. Et donc, ça serait intéressant d'avoir cet éclairage sur le comment et le pourquoi de ce phénomène.
Pierre, sans vouloir t'inviter à répondre systématiquement à toutes les questions, il me semble que là, tu es interpellé pour passer de l'introduction à la conclusion d'ouvrage. Pourquoi industrialiser ?
Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à la question en mon nom propre, mais je vais effectivement pouvoir dire ce que un certain nombre d'auteurs de l'ouvrage répondent à cette question. Auparavant, si tu le permets, et pour appuyer la réponse que je vais faire à Ziad tout à l'heure, je voudrais dire que la question que notre collègue ici a posée me semble une question importante et qui mérite peut-être qu'on y revienne. Et on peut y revenir par le biais d'abord d'un texte que nous avons cité, qui nous a beaucoup marqué, un texte d'un sociologue qui s'appelle Jean-Louis Dorouet, qui est commenté dans l'anthologie. Jean-Louis Dorouet appartient à un courant qui est celui de Boltanski, autour des cités ou des systèmes de justification. Et Dorouet explique que dans l'éducation, il y a un certain nombre de logiques ou de cités ou de modes de justification qui se croisent, se juxtaposent et se concurrencent un peu. Et en particulier, le premier qu'il évoque, c'est le mode civique. Ce que vous avez appelé citoyennisation, c'est-à-dire c'est effectivement la référence à informer qui doit être, qui est un citoyen ou qui est un futur citoyen. À quoi s'oppose un autre mode qui est le mode domestique ? Celui qui est en face du prof, ce n'est pas un citoyen ou un futur citoyen, c'est un enfant qu'il va falloir s'épanouir, qu'il va falloir aider à s'épanouir. À quoi s'oppose encore un autre mode qui est celui de la commercialisation ? Et là, on rejoint la question de Diète qui est c'est les services qui sont mis en vente d'une certaine façon. Il y a du marché. À quoi s'oppose encore une quatrième logique qui est celle de l'industrialisation, celle de la production d'un système, d'une machine, comme disait Durkheim, parlant du système éducatif, une machine éducative, dont il s'agit de faire en sorte que les inputs produisent les meilleurs outputs possibles. Donc je pense qu'à travers cette question, en fait, on interroge les trois points qui ont été, qui servent de dénominateur commun aux interventions que nous avons eues. La première, c'est celle du travail producteur. Ça a été dit, l'éducation, c'est du travail de la part des enseignants, de la part des auxiliaires de l'enseignement et de la part des enseignants eux-mêmes, des enseignés eux-mêmes, qui produisent, des apprenants, qui produisent eux-mêmes un travail. Et la question, c'est de savoir qui rémunère ce travail. Ça, c'est une question de citoyenneté. C'est une question d'industrialisation et c'est une question de citoyenneté. Quelle est la structure qui rémunère ? Dans certains de nos textes, on voit très bien que celui qui va rémunérer le travail, c'est celui qui en est le bénéficiaire. Il va en quelque sorte souscrire un emprunt, moral ou réel, qu'il va rembourser au terme de sa formation. Dans d'autres de nos textes, l'accent est mis au contraire sur la collectivité qui a sa responsabilité dans la rémunération du travail. Deuxième élément, la question de la valorisation. En fait, la question, c'est de savoir à qui ça profite, des opérateurs privés, des opérateurs publics, etc. Et cette question de la valorisation, elle renvoie à la question des plateformes ou des portails. Elle renvoie à la question des nouveaux modes de rémunération aujourd'hui. Enfin, troisième point, qui ne répond pas entièrement à la question que vous avez posée, mais qui en même temps permet de comprendre, c'est qui est à l'origine de tout cela. Alain Deric a parlé d'une métaphore agissante. Je trouve que c'est une bonne manière de faire le pont entre l'idéologie, d'une certaine manière, et les modalités pratiques. Car quand la métaphore, quand l'imagination, quand le rêve, quand l'utopie se traduit par un certain nombre d'éléments qui les concrétisent, on est en effet dans les moteurs. La question étant de savoir, celle que Xavier a posée, moteur endogène, moteur exogène ou les deux. Alors pourquoi industrialise-t-on ? Justement, pour ces trois raisons. Parce qu'il y a du travail et que la question est de savoir qui va le rémunérer et sur quelle base. Parce qu'il y a des modes de valorisation et la question est de savoir qui va en tirer profit. Et parce qu'il y a des gens qui y ont intérêt. Et je voudrais terminer en disant, dernière chose, dans le dernier texte donc, de l'anthologie, pourquoi industrialiser, c'est ainsi qu'il s'appelle, il y a un élément supplémentaire qui a été ajouté qui est propre au contexte français, qu'on ne trouve pas du tout dans le contexte nord-américain. Guy Berger, d'ailleurs, en parle un peu dans le texte que nous avons commenté de lui. Dans le contexte américain, vous industrialisez exactement comme vous l'avez dit, pour massifier. Dans le contexte français, des gens comme Perriot, Jacquinot, Monique Linard, Guy Berger et d'autres qui ne sont pas dans l'anthologie, on industrialise pour transformer la pédagogie. Parce que la référence à l'industrie permet de casser les modèles pédagogiques traditionnels. Autrement dit, dans le système nord-américain, on industrialise pour reproduire à grande échelle les modèles existants. Dans le système français ou européen, on industrialise pour rompre avec les modes de fonctionnement traditionnels. Voilà toute une série de réponses à cette question complexe. Pourquoi industrialise-t-on ?
J'aurais quand même le goût de tempérer un peu l'opposition et la dichotomie entre la signification de l'industrialisation en Amérique et la signification de l'industrialisation en Europe.
Dans le passé,
même dans le passé, il ne faut pas oublier qu'il y a tout un courant aux États-Unis, tout aussi dynamique, derrière l'innovation technologique en éducation. Je ne mentionnerai qu'un nom, Seymour Papert. Seymour Papert était, et d'autres, derrière l'invention même de la micro-informatique, il y a ce souci, ce désir de transformer les pratiques éducatives. Okay. Et ça remonte à Thomas Edison aussi, et à Graham Bell, qui était très préoccupé par les applications éducatives de ces techniques. Alors, ce n'est pas uniquement pour le marché aux États-Unis, je trouve que ce serait un petit peu exagéré comme typologisation, tout en reconnaissant qu'il y a ces deux motivations, mais je dirais dans les deux contextes géographiques. J'aurais le goût aussi de demander et de revenir sur un point qui est sous-jacent, me semble-t-il, aux préoccupations, qui l'est dans celle de Bernard, de Xavier, d'Alain, même dans le bouquin, qui est ce cadre théorique de l'industrialisation est-il toujours adéquat et pertinent dans le contexte du développement des technologies numériques. Est-ce qu'on a affaire à un nouveau type d'industrialisation ou s'il faut définir un nouveau cadre? Il me semble, Alain, si je vous ai bien compris dans le débat, que vous seriez plus de la deuxième école.
Je ne suis pas d'une école, je me pose la question.
Oui.
Dans BMS, c'était ouvert. Interroger les catégories, etc. Quoi. Donc, c'était une question. Je me méfie, j'essaye à chaque fois de me corriger, etc., de ne pas tomber dans l'époquisme, c'est-à-dire de penser qu'on serait dans une nouvelle époque grâce au numérique, etc. Je ne crois pas à ça. Malgré tout, il y a des choses, c'est plutôt de qu'est-ce qui est révélateur des transformations. Elles ne sont peut-être pas là où on les annonce, on ne sait pas là où elle est le courant dominant et elle l'explique. On n'est pas là dans l'innovation telle qu'elle est proclamée, parce que je partage ce qu'a dit Bernard tout à l'heure sur l'innovation, mais c'est quand même un discours très fort. Aujourd'hui, quand on est dans l'université, l'innovation est devenue avant la production de la science. Il faut qu'on soit innovant et qu'on forme des gens innovants. Alors, ça devient compliqué, quoi. Donc, derrière ce discours, mais c'est les mouvements profonds, peut-être, qui sont d'ailleurs des mouvements... C'est pour ça que... Je disais, je ne suis pas d'accord quand tu parlais d'épiphénomène et que moi j'ai un doctorat en sciences physiques, alors d'État en sciences physiques, donc vous imaginez bien que quand je regarde le phénomène ou quand on parle du phénomène MOOC, je me dis il faut le prendre comme un phénomène, comme au sens... D'ailleurs, les métaphores qui ont été utilisées sont importantes. L'avalanche, le tsunami, le raz-de-marée, pour qualifier cette chose-là, auquel je ne souscris pas du tout, n'empêche que si on s'intéresse à ces phénomènes, autant que phénomènes éphémères, etc., révélateurs d'eux, derrière, il y a la tectonique des plaques, c'est-à-dire des mouvements lents, des choses qui se sont passées et qui ont produit cela. Et c'est plutôt ça qu'on cherchait. Et c'est des signaux faibles, au travers des discours, etc., d'essayer de trouver pour travailler sur cette nouveauté, etc.
Non, mais sur le numérique.
Oui. Sur l'industrialisation et le numérique.
Pour moi, il faut placer tout ce qu'on met dans le cadre du numérique aujourd'hui en continuité avec ce qui s'est produit depuis une cinquantaine d'années au moins, mais également ajouter qu'il y a des éléments spécifiques que les techniques numériques entraînent. Autrement dit, ces continuités et, je ne vais pas dire innovation, et mutation, qui me paraissent à relier au numérique. Mais par ailleurs, je prends le pari que dans quelques années, on ne parlera plus de numérique. On parlera de telle ou telle technique, et en particulier des objets communicants ou des choses comme ça. Le numérique, c'est une... Dans un passé qui n'est pas si ancien, on parlait de virtuel, puis maintenant on parle de numérique. Et par ailleurs, le numérique, c'est un masque pour toute une série d'évolutions qui sont très, très, très différentes. Enfin, le numérique, on peut dire qu'il comprend des évolutions techniques, technologiques, qui devraient être distinguées. Voilà.
J'aurais le goût aussi de reprendre certaines des préoccupations qui ont été soulevées en parlant de citoyenneté ou les questions soulevées par Xavier, qui me semblent toutes ramenées, c'est mon interprétation, quelle place pour l'acteur dans l'approche industrielle? Quelle place théorique, hein? On pourra avoir l'impression que derrière les grandes caractérisations du processus, la rationalisation, la technologisation, l'idéologisation, c'est des sortes de forces obscures, abstraites, qui se développent un peu indépendamment des acteurs. Quelle place pour les acteurs sociaux dans une approche d'industrialisation de la culture ou de la formation?
Oui, Éric Auziol. Je parle ici en tant que membre du CIF et sur une dimension un petit peu critique, donc largement donc aussi autocritique, bien sûr. Pour revenir sur le concept d'industrialisation, puisqu'il est au cœur de notre table ronde, il se décline donc sur ce qui s'appelle trois marqueurs, mais qu'on pourrait appeler aussi catégories ou qu'on pourrait appeler dimensions. Si un concept a trois dimensions et qu'on le présente uniquement comme ça, on dira que c'est un concept descriptif qui permet donc de lire un peu comme le fait une grille, lire une pratique ou lire toutes sortes de phénomènes et en particulier les phénomènes industriels appliqués à l'éducation. Pierre Meuglin, dans la part où que j'ai relu encore hier, traite de cette question-là sous le titre « Interdépendance des trois dimensions ». Mais de mon point de vue, il le traite assez rapidement puisque c'est traité en à peine une page sur un volume qui est assez gros, même si on se résume à l'introduction. La question que je pose, c'est que faudrait-il et n'y a-t-il pas un risque à ce qu'il y en ait une lecture un peu substantialiste de ce concept qui ne permette pas d'aller très très loin dans l'analyse, qui permet de faire l'analyse historique, l'ouvrage en est la preuve, mais est-ce que ça permet effectivement d'aller jusqu'à des propositions pratiques? Et est-ce que faudrait-il de plus pour en faire un concept qui soit de type modèle cette fois-ci et qui fournisse une autre lecture dans une dimension qui par exemple serait beaucoup, beaucoup plus systémique? Alors, je sais que je pose la question à Pierre, on en a déjà parfois discuté, mais c'est vrai qu'en le relisant, je conçois surtout dans un usage qui peut être fait par des praticiens, et aussi, on revient souvent à cette question, hein, c'est important de s'interroger sur ces pratiques, parce que des dispositifs, en particulier les dispositifs numériques actuels, émergent en permanence, et c'est vrai qu'on a besoin... je vais employer encore un autre terme, hein, mais c'est un outil conceptuel de lecture de tout ce qui advient comme phénomène dans ce monde. Et je crois que le risque est fort qu'il y en ait un usage qui soit un usage limité. C'est-à-dire, voilà, bon, ben, y a ces trois dimensions, voyons-les successivement, puis essayons de voir les rapports qu'elles ont entre elles. Alors que peut-être des questions beaucoup plus décisives pourraient se poser. Par quel concept on rentre dans l'analyse, selon les situations? Faut-il... Je travaillais un petit peu comme animateur, cet an dernier, la problématique des politiques publiques en matière de... Et je me disais, mais on y reviendra, c'est la dernière table ronde, hein, de la journée. C'est peut-être bien la dernière question qui se pose en termes de politique publique, d'idéologisation, sachant combien les politiques publiques passent aussi par le discours, hein, dans l'espace public, indépendamment des actions qui sont menées. Et même souvent, les actions sont une forme dérivée du discours, d'une certaine manière. Donc, il faudrait voir si, parfois aussi, deux dimensions du concept ne sont pas complètement de même nature dans certaines circonstances. C'est-à-dire qu'elles se recoupent et qu'elles signifient strictement la même chose, justement parce que notre langage ne permet pas de les distinguer précisément. Donc, pour revenir à ces questions épistémologiques, est-ce que dans la table ronde, certains voudraient poursuivre ce débat et répondre à quelques-unes de mes inquiétudes ?
Oui, non, moi j'avais un mot. Hein, moi, je suis aussi un peu ici un alien. Enfin, je le dirai là quand j'interviendrai à la deuxième table ronde. Hein, je suis un économiste. Je me soigne, hein, mais bon. Voilà. Et donc, mon intervention, ce que je veux dire là, ça porte sur un point qui a été abordé, moi, qui me paraît important, c'est la question de la marchandisation. Hein. Voilà. Bon, moi, je pense aussi que c'est une dimension majeure qui touche, je pense même en tant qu'universitaire, hein, par des canaux divers, le système universitaire, que c'est une dimension majeure des transformations, etc., etc. Alors, j'ai eu le sentiment, en regardant, et en particulier, il me semblait, à la lecture de l'introduction de Pierre Meuglin, que ce n'était pas considéré comme central dans l'analyse qui est proposée. Voilà. Hein? Alors que je pense, moi, effectivement, que c'est central, qu'il y a toute une série de questions sur les rapports marchandisation-industrialisation. J'en dirai peut-être un mot après.
Oui, je voudrais juste une question très courte sur une sorte de paradoxe qui apparaît dans ce processus d'industrialisation, où d'un côté, on veut reproduire, le principe de l'industrialisation, c'est de reproduire des choses à l'identique pour pouvoir passer à l'échelle. Et de l'autre côté, on dit dans cette industrialisation, il y a quelque chose de nouveau, c'est qu'on veut rendre le produit, le service, adapté de manière parfaite à l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on quitte un univers productiviste, enfin de production, orienté, je dirais, client pour aller vers un processus industriel orienté service, donc adapté. Et donc il y a une sorte d'un élément particulier, hein, singulier, par rapport à l'industrialisation telle qu'on a pu la voir dans l'automobile, dans les autres secteurs d'activité.
Si vous me permettez, j'aimerais aussi revenir sur la préoccupation concernant la place de l'acteur, d'acteur social. Me référant à ce que disait Alain sur la nouvelle figure de l'entrepreneur, l'importance. Ça m'a frappé parce que vous avez aussi rappelé qu'il y a une profondeur historique dans l'approche qui est apportée par l'anthologie, mais vous avez parlé aussi de ce qu'il y a de nouveau. Bien sûr, il y a le numérique, et vous avez parlé de la centralité de l'entrepreneur. Je me suis demandé, mais pourquoi il n'y en avait pas avant des entrepreneurs? Il y en avait dans l'industrialisation, il y a toujours eu des entrepreneurs. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi maintenant ça apparaît comme important l'entrepreneur, alors qu'on en parlait un petit peu, mais relativement peu. C'est présent dans l'anthologie. Entre autres, quand Pierre évoque le rôle que se donnent les innovateurs pédagogiques, qui sont un petit peu des entrepreneurs dans le milieu universitaire, dans le milieu collégial, etc. Mais quand même, pourquoi maintenant l'entrepreneur serait-ce une caractéristique de la nouvelle industrialisation que de revenir en quelque sorte ou de mettre en évidence le rôle de l'entrepreneur? Bernard.
Sur le même thème, je pense qu'effectivement, le moyen de ne pas avoir une approche risquée de l'industrialisation, c'est de mettre l'accent sur les acteurs. Mais les différentes catégories d'acteurs, hein, ça ne veut pas dire pas seulement les acteurs consommateurs pratiquants finaux, enfin, qui vont être sollicités de différentes manières, un petit peu comme, disons, au niveau des techniques d'information et de communication, la sociologie dite francophone des usages s'est intéressée uniquement à eux pendant 20 ou 25 ans. Pas uniquement eux, mais aussi des acteurs tels que les entrepreneurs, les gens qui sont à l'origine des produits qui sont disponibles sur les marchés, et puis les grands acteurs, c'est-à-dire en fait les grandes firmes qui au niveau mondial ont réussi ce fait tout à fait important, enfin qui surplombe les industries culturelles comme les industries de la formation, c'est-à-dire les industries de réseaux socio-numérique, hein, en 10 ans, c'est devenu quelque chose non seulement d'exponentiel au niveau financier, mais surtout au niveau de toute l'organisation des activités dont nous parlons ici. Donc oui, les acteurs, mais toutes les catégories d'acteurs, pas seulement les acteurs finaux à qui, en fait, on propose on propose un peu trop facilement des outils de partage, des outils de collaboration, des outils de création. Ça, c'est une vision d'expert, mais c'est une vision qu'il faut combattre.
Oui, allez. Oui, si je pouvais, j'essaierais de répondre ou de moins de voir mon interrogation par rapport à votre première question, justement. Vous aviez posé une série de questions tout à l'heure. Et la première, c'est parce que quand vous l'avez introduit, je me suis dit, oh là, ça part sur un niveau microscopique. On a parlé des outils d'aide à la conception, etc. Et j'aimerais revenir là-dessus parce que tout compte fait, c'est effectivement très pertinent. Si on regarde, on a parlé de l'industrie, de la formation. On a évoqué l'aval avec la marchandisation, la commercialisation, etc. Et l'articulation entre apprenants et consommateurs, etc. Mais il y a l'amont qui est la phase de conception. Si on regarde l'industrie traditionnelle, en gros, on concevait des produits qu'ensuite il fallait fabriquer et qu'ensuite il fallait vendre. Et d'ailleurs, c'était dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on vendait que ce qui avait été fabriqué et on fabriquait que ce qui avait été conçu. Aujourd'hui, c'est bien plus imbriqué, ces phases-là. Et bien sûr, ça pose le problème, c'est que dans la rationalité, on a introduit de la rationalité et de la modernisation par la technologie, la technisation des processus de fabrication, mais on le met aussi dans les processus de conception. Dans l'industrie, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui est conçu sans des outils de conception assistée par ordinateur, et on anticipe fortement la production, c'est-à-dire que si on regarde des grandes suites de chez les équipementiers automobiles ou dans l'automobile, etc., des outils, ou chez Airbus, des outils comme Katia de Dassault Software introduisent non seulement la conception des pièces, mais aussi leur dépannage, leur maintenance, l'effet collaboratif qu'il pourra y avoir autour de la maintenance d'avions. Donc c'est largement anticipé, ce qu'on appelle la PLM. Et donc, quand on parle de ces outils, est-ce que pour réussir le processus d'éducation de l'éducation, il ne faut pas effectivement, ou pas, c'était un débat justement, technologiser et industrialiser aussi la conception des supports et des dispositifs pédagogiques. On pense, j'imagine que derrière, il y avait Scénarichaine ou des choses comme ça qui étaient l'écriture des scénarios. Mais on voit bien que c'est à l'œuvre, effectivement. Et en fait, ce qu'il faut penser, c'est que la conception, elle n'est pas avant, puis après, il y a une production et ensuite, il y a un usage. Moi, j'enseignais à mes étudiants, parce que j'ai enseigné l'ergonomie du logiciel pendant près de 30 ans, que les usagers achèvent la conception dans l'usage. C'est-à-dire que la conception, elle n'est jamais finie. Elle est toujours là. Elle est toujours remise en cause. Et donc, du coup, il faut des outils ou des infrastructures qui permettent cette ouverture derrière, une malléabilité fonctionnelle, etc. Et donc, on devra s'interroger sur cette place pour le futur, sur la place des outils de conception, des concepteurs en tant qu'acteurs, et eux-mêmes travailler par enserrés par les outils qu'on va leur proposer. Il n'y a pas de neutralité de ces outils-là.
Ils induisent des modèles pédagogiques.
Pierre, un mot sur la place de la marchandisation dans l'approche de l'industrialisation de la formation? Et nous cheminerons vers une conclusion de cette table.
Trois mots d'ailleurs, si c'est possible. D'abord sur la question de la marchandisation et dans ses relations avec l'industrialisation. Ensuite peut-être sur la question qui a été posée sur l'utilité du concept, bien que nous d'ailleurs on parle plus de notion que de concept. Et puis peut-être un mot aussi sur la figure de l'entrepreneur. Sur la question de la marchandisation, nous ne sous-estimons évidemment pas l'importance majeure que représente la mise en marché et le marché par rapport aux questions qui nous intéressent. D'une certaine façon, même on peut dire que le capitalisme, c'est l'association de la production industrielle, du mode industriel de production et de la diffusion marchande à grande échelle. C'est l'association des deux qui fait, d'une certaine manière, le capitalisme. Mais la raison pour laquelle nous n'avons pas considéré ou pensé qu'il était utile de tenir la marchandisation comme un marqueur, puisque c'est la question qui est posée par Olivier Weinstein, par Bernard Miège et par Gaëtan Tremblay, la raison est peut-être, trouve peut-être son explication dans un principe simple ou trop simple ou simpliste, mais c'est qu'il y a de l'industrie sans marché et il y a du marché sans industrie. Il y a bien sûr du marché sans industrie, ça la chose va de soi, mais il faut aussi penser que, par exemple, les systèmes éducatifs sous la Troisième République ont été conçus de façon industrielle, y compris par certains de façon explicite, alors qu'il n'était évidemment pas question de marché. C'était industrialisé pour d'autres raisons. Donc, nous ne sous-estimons pas l'importance de la référence au marché, mais nous n'avons pas voulu en faire un marqueur sur le même niveau que les deux autres, que les trois autres, enfin que les trois. Sur la question de l'utilité de la notion d'industrialisation, je dirais, en prenant un exemple qui est deux exemples qui sont tirés de l'anthologie. D'abord, nous n'avons pas cité de texte d'Illich. Nous en étions fort désireux, mais nous ne l'avons pas fait parce que le texte d'Illich, que nous aurions pris, qui tirait de la société sans école, est un texte trop caricatural. Illich dit l'éducation, c'est devenu aujourd'hui une entreprise de commerce à distance qui emballe, qui conçoit, qui fait des enquêtes d'opinion, etc. Donc on a pris le texte d'un disciple d'Illich qui lui était plus nuancé sur la question. Qui dit oui, ça pourrait être en effet de la vente par correspondance, mais ça peut aussi être autre chose que cela. Donc tout cela pour dire que la notion d'industrialisation nous paraît être une sorte d'idéal type auquel rapprocher plus ou moins les pensées et éventuellement les réalités. C'est ça l'intérêt peut-être de cette notion, c'est qu'elle nous permet d'identifier la marge de plus ou moins grande proximité des auteurs ou des réalisations par rapport à cet idéal type que représente l'industrialisation. Voilà peut-être l'utilité, mais qui n'a pas en effet d'utilité praxéologique, qui ne sert pas pour l'action, qui sert simplement à comprendre de quoi il s'agit. Enfin, dernier point sur l'entreprise, tout ce qui a été dit est très juste et nous en prenons bonne note, évidemment. C'est un point peut-être que nous aurions pu développer davantage. Dans l'anthologie, à plusieurs reprises, nous insistons sur la figure de l'entrepreneur pour montrer qu'il y a des entrepreneurs du côté des éducateurs, il y a des capitaines d'industrie de l'éducation. D'ailleurs, Daphne Koller, par exemple, en est une, visiblement. Hein, c'est un MOOC. C'est d'une certaine manière, non pas des universités qui se mettent à distance, comme c'est le mode de fonctionnement des industries à distance, mais ce sont des plateformes ou des portails qui s'interposent entre des universités, dont du même coup, elles prennent en charge et valorisent un peu l'offre par rapport à des consommateurs qu'elles se chargent d'identifier eux-mêmes. Coursera, ce n'est pas une université de plus. Coursera, c'est un intermédiaire entre Stanford et d'autres et des consommateurs qui se trouvent en France ou en Afrique. Et là, on a bien affaire à une entrepreneur. Mais l'entrepreneur, c'est aussi l'élève. Entrepreneur de lui-même, auto-entrepreneur. Et je pense que cette figure-là de l'individualisation donc d'acteurs réduits ou érigés au stade, au rang d'entrepreneur, c'est sans doute en effet une des métamorphoses à laquelle la notion d'industrialisation permet d'accéder, dont elle permet de clarifier les modalités.
Alors, nous avons commencé avec un quart d'heure de retard, ou presque. Nous ne l'avons pas rattrapé, mais nous n'avons pas ajouté au retard. Alors, il me reste à remercier Xavier, Bernard, Alain et Pierre pour cette première table ronde qui a amorcé la journée de débat.
On peut ajouter un mot ?
Ajouter un mot ?
Oui, je pense que les critiques sous-jacentes à l'emploi du terme industrialisation viennent, et c'est effectivement un risque, de ce que les trois ou quatre marqueurs, parce qu'effectivement il y en a quatre qui ont été indiqués, sont souvent, devraient toujours être utilisés de façon conjointe, articulée et non pas séparément. Et le risque vient de ce point-là. Il y a un risque d'incompréhension, à mon avis, qui est important. Le deuxième point, c'est que il faut bien se rendre compte que ce qui est mis en avant dans les industries de services informatiques, ça ne fonctionne pas de la même façon dans les industries culturelles, d'une part, dans les industries créatives, d'autre part, et troisièmement, à mon avis aussi, dans les industries de la formation. Il ne faut pas mettre en avant les modalités d'appel au travail de conception qui sont celles des industries de services informatiques pour expliquer ce qui est en train de se passer ou va se passer dans les autres. Jusqu'à maintenant, il y a des aspects spécifiques dans les industries culturelles, dans les industries créatives et sans doute dans les industries de la formation, des aspects spécifiques qui perdurent pour des raisons qui sont des raisons économiques simples.
Voilà, merci.